Bonjour, nous sommes trois collégiens en 4e A de l'école Jeanne d'Arc.
Nous allons spécialement vous présenter une émission pour vous pendant une année.
C'est Globule Radio qui nous a accompagnés.
Nous sommes actuellement dans leur studio.
Nous sommes ici car nous souhaitons découvrir le monde de la radio. Mais avant de parler de nos sujets, nous allons nous présenter.
Je m'appelle Lou, je suis née à Bourg-Saint-Maurice, j'ai 14 ans, je suis au collège Jeanne d'Arc, je suis une sportive, mes sports préférés sont l'équitation et le ski, j'adore aller à la mer et ma destination de rêve sont les États-Unis.
Je m'appelle Louis et je suis un sportif, je pratique de nombreuses disciplines comme le ski et le surf ou encore le vélo DH. J'aimerais partir en vacances et j'aimerais particulièrement partir au Japon. Plus tard, j'aimerais faire ingénieur.
Je m'appelle Gaspard, je suis un passionné des sports de montagne, comme le ski alpin, le biathlon ou l'alpinisme. J'habite à Chamonix depuis tout petit, et je suis très attaché à cette vallée. Avec ma famille, nous partons souvent pendant les vacances d'été, faire des voyages en vélo. Plus tard, je serai ingénieur dans l'aéronautique.
Notre sujet est centré sur Chamonix au 18 et 19e siècle. Louis sur l'évolution de cette ville, Gaspard sur le matériel de montagne, et moi sur les cristalliers de Chamonix.
Avant de parler de notre sujet, nous allons écouter de la musique Ride de 21 Pilots. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know. It's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, 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 I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. C'était Ride de 21 Pilots
Maintenant, Lou va nous parler des cristaux de Chamonix qui illuminent nos montagnes.
Reportage sur les cristaux de Chamonix au XVIIIe et XIXe siècle. Chamonix, nichée au cœur des Alpes françaises, est mondialement reconnue pour son paysage spectaculaire et son Mont Blanc imposant. Mais au XVIIIe et XIXe siècle, ce n'est pas seulement pour ses montagnes que Chamonix attirait les regards. C'était également un centre d'intérêt pour les cristaux et les minéraux. La découverte des cristaux. Durant le XVIIIe siècle, la vallée de Chamonix et ses environs étaient explorés non seulement par des alpinistes, mais aussi par des naturalistes et des collectionneurs de minéraux. Ces aventuriers étaient fascinés par les formations cristallines trouvées dans les glaciers et les montagnes. Le premier chasseur de cristaux était souvent des habitants locaux qui connaissaient bien le terrain. Ils escaladaient des parois rocheuses dangereuses et pénétraient dans des glaciers pour extraire des cristaux, parfois au péril de leur vie. Les spécimens découverts étaient de toute beauté, quartz, améthyste et diverses autres formations minérales. L'âge d'or de la cristallographie. Avec le développement de la cristallographie et de la minéralogie au XVIIIe siècle, les cristaux de Chamonix devinrent extrêmement prisés. La demande augmenta particulièrement avec l'essor de l'intérêt scientifique et la passion croissante pour les collections de curiosités. Le développement du tourisme à Chamonix, stimulé par les premières ascensions du Mont Blanc, contribua aussi à populariser les cristaux locaux. Les visiteurs européens, émerveillés par la beauté des Alpes, repartaient souvent avec des spécimens minéraux comme souvenir. Les cristalliers de Chamonix. Les cristalliers, comme on appelait les chasseurs de cristaux, devinrent une figure emblématique de la région. Ces hommes, dotés d'un savoir-faire spécifique et d'une grande bravoure, partaient régulièrement en quête des trésors minéraux enfouis dans les montagnes. Leurs techniques se perfectionnèrent avec le temps. Armés de pioches, de marteaux et de cordes, ils exploraient les anfractuosités des roches et les failles des glaciers. La recherche était difficile et dangereuse, mais les récompenses pouvaient être considérables. Les plus belles pièces étaient souvent vendues à des collectionneurs et à des scientifiques ou exposées dans des musées. Impact et héritage. L'activité des cristalliers eut un impact durable sur la vallée de Chamonix. Les cristaux trouvés dans la région contribuèrent de manière significative à l'étude des cristaux, des minéraux, et à la cristallographie. En Europe, de nombreuses pièces récoltées au XVIIIe et XIXe siècle se trouvent aujourd'hui dans des musées prestigieux comme le musée de minéralogie à Paris. De plus, la tradition des cristalliers perdure encore aujourd'hui. Bien que l'extraction commerciale soit moins commune, la recherche des cristaux reste une activité passionnante et respectée à Chamonix. Les techniques modernes ont réduit les dangers, mais l'esprit d'aventure et la fascination pour la beauté des cristaux restent inchangés. Témoignage d'un cristallier. Jean-Baptiste Simon, cristallier de Chamonix au XVIIIe siècle, a laissé un témoignage poignant de ses expéditions à la recherche de cristaux. Il raconte « Partir à la recherche aux cristaux est une entreprise périlleuse. Nous gravissons des parois escarpées et pénétrons dans des crevasses glaciaires. » Là où personne n'ose aller. Chaque sortie est une lutte contre la nature, contre la glace et la roche. Mais la récompense lorsqu'on découvre un cristal parfait est inestimable. C'est une passion qui nous pousse à défier les dangers. Chaque cristal que nous trouvons est un morceau de la montagne, un trésor millénaire que nous avons su dénicher avec notre expertise et notre détermination. Extrait d'un scientifique. Horace Benedi de Saussure, un célèbre naturaliste suisse, fut l'un des premiers scientifiques à étudier les cristaux de Chamonix au XVIIIe siècle. Il écrivait « Les montagnes de Chamonix renferment des trésors minéraux d'une beauté et d'une diversité étonnantes. Les cristaux de quartz que l'on y trouve sont parmi les plus purs et les plus grands que j'ai jamais vus. Leurs études offrent une compréhension précieuse des processus géologiques. La région attire non seulement les alpinistes, mais aussi les savants et les collectionneurs du monde entier. Les spécimens extraits par les habiles cristalliers locaux enrichissent les collections des musées et des universités, contribuant de manière significative à l'avancée de la minéralogie. Conclusion. Les cristaux de Chamonix découverts et extraits avec passion et courage par les cristalliers des 18 et 19e siècles continuent d'émerveiller les scientifiques et les amateurs de minéralogie du monde entier. Leur histoire est un témoignage de la richesse naturelle de la région et de l'ingéniosité des hommes qui nous su la relever. Merci de nous avoir marqué. Écoutez maintenant, on marque une pause musicale. Là, j'ai...
Tu vas voir la claque, tu veux faire la course, tu vas voir que la plaque. Genga, motherfucker. Que c'est bouché sur un bateau. De 40 dans la L2, outillé comme Takeshi Kitano. Tournevis dans le loquet, ça bouscule, on grossit le pécule jusqu'au crépuscule. À l'affût des vices de procédure, on cherche la preuve qui nous disculpe. Hey. Qu'une seule mif, mentalité Napoli. P38, Piaggio, Caneloni. Trop fin des yébis, j'aurais ni cassé Tokyo ni Nairobi. Hey. J'ai un Sauer 6, si tu galbais comme Iron Man. Hey. À 50, autobahn. Pour garer le Mercedes, il faut deux places. Je vais ramener toute la thèse. Faut plus de tasses. Je pense qu'à rouler ma bosse. Niquer la terre. La petite elle veut deux gosses. Et que je sois le père. La meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. La meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. Provenzano, Genovese, John Gucci. J'fais les boutiques, j'prends que du noir comme un gothique. Hey, j'ai un 44 pour la chouche, mon vieux, j'ai dû faire pour les miochich. Hey, chiche, pas chiche, j'ai des rêves sur 10 piges. Ok, R1 RR, Panigale GSXR. J'mets la caisse en équerre, usual suspect t'as lâché dans le vestiaire. Et RAVR, là il me faut un hélicoptère. Plata dans l'ADN, gardien la dégaine. Cellule iPhone X, comme Ramesse et Chef 10. La petite veleur, je remonte la manche, elle avait jamais vu des clips. T'as mis la charrue devant les bœufs, du coup t'es numéro 2. Sprunch attend le 4-4, j'fais demi-tour devant les bleus. Pour garer le Mercedes, il faut deux places. J'vais ramener toute la thèse, faut plus de tasses. J'pense qu'à rouler ma bosse, niquer la terre. La petite elle veut deux gosses, et que j'sois le père. La meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn. La meilleure défense c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Motorsport, autobahn.
C'était Autobahn de SCH et nous allons maintenant écouter Louis qui va nous parler du développement de Chamonix.
Voilà, comme Gaspard l'a dit, je vais vous parler de la ville de Chamonix-Mont-Blanc à l'époque du XVIIIe siècle, donc c'est-à-dire comment était la ville et comment on se débrouillait. Alors, au XVIIIe siècle, Chamonix, ancien nom de Chamonix, n'était qu'un petit village en milieu rural. Ses habitants vivaient alors tant bien que mal dans l'élevage des cultures de seigle et d'avoine. À cette époque, la population de Chamonix était relativement basse. En 1741, deux Anglais, William Wyndham, explorateur et aventurier britannique, et Richard Pocock, anthropologue et égyptologue britannique, racontèrent dans les gazettes littéraires leur visite de la vallée de leur expédition vers un gigantesque glacier qu'ils baptisèrent la mer de glace. La curiosité suscitée par leur récit attira rapidement les premiers touristes qui se lancèrent alors dans ce qui deviendra l'alpinisme. Maintenant, bien que Chamonix fût une petite communauté à l'époque, elle joua un rôle essentiel dans l'histoire de l'alpinisme et de l'époque, elle joua un rôle essentiel dans la fascination pour ses paysages majestueux et les glaciers de la région contribua à l'essor du tourisme et à la renommée de Chamonix-Mont-Blanc.
Pourquoi Chamonix-Mont-Blanc n'était pas peuplé au XVIIIe siècle ?
Alors, Situation géographique et climat. Le territoire qu'occupe actuellement la ville de Chamonix est un contrée inoccupée et hostile en raison de son climat montagnard et de la situation géographique. Économie locale. Au XVIIIe siècle, Chamonix n'était qu'une petite bourgade rurale. Ses habitants vivaient alors tant bien que mal dans l'élevage de seigle et d'avoine. Le petit âge glaciaire. Au début du XVIIIe siècle, lors du petit âge glaciaire, les processions étaient faites car la mer de glace s'approchait dangereusement de Chamonix.
Mais alors, par qui la ville de Chamonix-Mont-Blanc était dirigée au XVIIIe siècle ?
Au XVIIIe siècle, la ville de Chamonix-Mont-Blanc était sous la domination de la Maison de Savoie. C'est un territoire du duché de Savoie qui faisait partie des États de Savoie eux-mêmes intégrés depuis le traité d'Utrecht de 1713 au royaume de Savoie-Sardaigne. Cependant, il est important de noter que la communauté locale a souvent contesté l'autorité des moines et de la Maison de Savoie, ce qui entraîne de nombreuses rébellions.
Comment la ville de Chamonix a réussi à se développer au cours des années ?
Au XVIIIe siècle, la ville de Chamonix-Mont-Blanc a connu un développement significatif à plusieurs facteurs clés. L'alpinisme. En 1760, le médecin naturaliste Genevois Horace Bénédict de Saussure a effectué la première ascension documentée du Mont-Blanc. Cette expédition a ouvert la voie à l'exploration alpine et attiré de nombreux alpinistes et explorateurs de la région. Infrastructure et hébergement. En 1760, la première auberge a été ouverte pour accueillir les explorateurs. Cela a permis d'accueillir les premiers touristes et explorateurs. Agriculture et élevage. Les habitants de Chamonix vivaient de l'élevage et des cultures. Cela a permis de soutenir la population locale et de fournir des ressources pour le développement de la ville. Résistance locale. La communauté locale a souvent contesté l'autorité des moines et de la Maison de Savoie, ce qui a entraîné de nombreuses rébellions et des conflits qui ont contribué à forger l'identité et la résilience de la communauté de Chamonix. Ces facteurs ont contribué à la croissance du développement de Chamonix-Mont-Blanc au XVIIIe siècle.
Est-ce que la ville de Chamonix était une crainte ?
Au XVIIIe siècle, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc était souvent perçue comme un lieu hostile et effrayant, principalement en raison de son environnement naturel. Les raisons de cette crainte étaient les suivantes. L'environnement montagnard. Le climat montagnard et la situation géographique de Chamonix rendaient la région difficilement accessible et potentiellement dangereuse. Ces conditions météorologiques extrêmes, les avalanches et les inondations étaient les risques réels pour les habitants et les visiteurs. Glaciers. Ces grands glaciers de la région, comme la mer de glace, étaient à la fois fascinants et effrayants. Ils étaient souvent associés à des dangers tels que les crevasses et les chutes de sérac. L'isolation. Au XVIIIe siècle, Chamonix est une petite bourgade rurale isolée. L'éloignement de la ville par rapport aux grandes villes et la difficulté du déplacement pouvaient susciter une certaine appréhension. Certainement, malgré ces défis, la région a commencé à attirer l'attention des explorateurs et des alpinistes au cours du XVIIIe siècle, ce qui a conduit à son développement ultérieur.
Quel est le sport le plus pratiqué à Chamonix au XVIIIe siècle ?
Au XVIIIe siècle, le sport tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas vraiment. Cependant, à Chamonix, l'activité qui se rapprochait le plus de ce concept de sport était probablement l'alpinisme. En effet, la région de Chamonix-Mont-Blanc a commencé à attirer l'attention des explorateurs et des alpinistes au cours du XVIIIe siècle. Il est également à noter que le jeu de paume est un sport populaire en France au XVIIIe siècle, mais qu'il n'est pas clair que ce sport est pratiqué à Chamonix pendant cette période. Chamonix a été développée au XVIIIe siècle, principalement par la Maison de Savoie et l'impact du tourisme initié par l'exploration des montagnes. Le récit a publié en Suisse, puis à Londres, dans différents journaux littéraires, ce qui a lancé la mode des voyages aux glaciers.
Qui a découvert la ville de Chamonix ?
La ville de Chamonix-Mont-Blanc est entrée dans l'histoire en 1091, lorsque le comte Aymon Ier de Genève a fait don à la vallée de l'Abeille, Saint-Michel de la Cluse. en Piémont. Cependant, la découverte de la vallée de Chamonix, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est attribuée à deux Anglais, Richard Wyndham et William Pocock, en 1741.
En quelle année a été construite les premières remontées mécaniques?
La première remontée mécanique a été à Chamonix-Mont-Blanc, le téléphérique des Grands Montets. Il a été ouvert en 1963. Cependant, il a été touché par un incendie en 2018. Un projet d'ampleur a vu le jour pour lui redonner une vie et reconstruire la remontée et la gare du téléphérique.
Est-ce qu'il y a eu la guerre à Chamonix?
Au XVIIIe siècle, il n'y a pas eu de guerre spécifiquement à Chamonix. Cependant, il est important de noter que la région a été sous l'influence de la Maison de Savoie pendant plusieurs siècles et a connu diverses tensions au fil du temps. Par exemple, la guerre de succession d'Autriche a eu lieu au milieu du XVIIIe siècle et a effectué la région de la Savoie.
Et pour finir, y a-t-il eu de gros dégâts dévastateurs, par exemple des avalanches ou des éboulements à Chamonix?
Alors, il y a eu comme l'avalanche de 1965, le 25 janvier 1965. Une avalanche spectaculaire a déferlé sur les pentes de Baltière, ensevelissant 60 skieurs. Cet événement est tragique et survenu seulement quelques mois après un autre drame majeur où 13 professeurs et stagiaires de l'école d'alpinisme ainsi que le champion de ski Charles Bonzon ont été tués par une avalanche de l'Aiguille Verte le 7 juillet 1964. Avalanche de Montroc en 1999. Le 9 février 1999, une avalanche a frappé le hameau de Montroc à Chamonix, faisant 12 morts. Cette avalanche est survenue après une neige incessante soit tombée à Chamonix avec 3,70 m de neige accumulée en 15 jours, augmentant considérablement le risque d'avalanche. Et maintenant, on va faire une pause accompagnée de la musique Freedom de Soprano.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squats, squats. Abdo dips, pompe bar, abdo dips, pompe bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach.
Faut taper le cardio. La vie c'est musclé.
10 secondes de récup et on repart.
We'll be right back.
Bonjour à tous, vous êtes sur Globule Radio 90.5, la radio de la Vallée de Chamonix.
Genius. C'est une journée spéciale sur votre radio préférée.
L'équipe de Globule Radio et le département vous présentent les émissions en direct des collégiens de Haute-Savoie.
15 heures pour créer une émission de A à Z.
Oh my God.
Le défi était de taille.
Et voilà le résultat.
Il est 13h25 sur Globule Radio. C'était London Bridge de Aeroplane. Nous allons écouter l'interview de Gaspard qui nous parle du matériel de montagne.
Le 8 août 1786, à 4810 mètres d'altitude, l'alpinisme a été créé par Jacques Balma et le docteur Paccard. Avec un bâton cylindrique confectionné par le jeune cristallier pour remplacer le piolet moderne qui attendra 1860 pour être produit, ils gravirent pour la première fois le toit de l'Europe, le Mont Blanc. Depuis ce jour, les montagnards se lancent des défis de plus en plus incroyables. Du XVIIIe siècle à aujourd'hui, l'alpinisme a eu plusieurs changements majeurs. Le matériel en fait partie. Suivez-moi à Chamonix, là où tout a commencé. Pour en savoir un peu plus sur l'histoire du matériel de montagne et l'alpinisme, je suis accompagnée d'Aline Dacosta, une médiatrice culturelle de Chamonix. Quelle a été la conquête des Alpes ?
On ne va pas se contenter du Mont Blanc, on va essayer d'atteindre tous les sommets. Les sommets de Chamonix, mais également tous les sommets des Alpes. Et ça, c'est ce qui va se faire sur une période qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme, entre 1854 et 1865. À ce moment-là, c'est la conquête des Alpes, on atteint tous les sommets des Alpes. Et une fois qu'on aura terminé de conquérir les Alpes, eh ben, on va aller faire la conquête de l'Himalaya. Donc bien sûr, le matériel va aider à ces conquêtes, mais la plupart des grandes ascensions se sont faites avec du matériel très rudimentaire.
Cela a-t-il permis à Chamonix de devenir la capitale de l'alpinisme ?
Tout à fait, bien sûr. C'est effectivement cette première ascension du Mont Blanc, réalisée par Balma et Paccard le 8 août 1786, qui va être considérée comme étant la naissance de l'alpinisme. Forcément, ça va attirer beaucoup de monde, des scientifiques surtout au départ. Et puis, les montagnes aussi vont attirer des touristes. Le savoir-faire est né ici. Hein, c'est une terre, Chamonix est une terre de guides. On va apprendre le métier. Et oui, cette réputation fait qu'aujourd'hui, Chamonix est considérée comme la capitale mondiale de l'alpinisme. C'est d'ailleurs ici que se trouve l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme.
Quand sont apparues les premières grosses améliorations ?
Alors, les premières grosses améliorations, alors il n'y a pas de date précise à donner. Comme pour l'évolution du ski, dont j'ai parlé lors d'une autre interview, c'est en fonction des besoins. Forcément, au départ, ce qu'on utilise, les hottes, les clés de portage, on voit qu'elles ne sont pas adaptées. Donc, au fur et à mesure, on va inventer le sac à dos. Et le sac à dos, il va se chercher aussi. Au départ, il y a beaucoup de poches, après, on en met moins. On a des sacs à dos de forme ronde, de forme carrée. Donc, tout au long de l'évolution de l'alpinisme et du matériel, eh ben, on va chercher à développer des choses. Concernant, par exemple, le bâton, ben, le bâton, lui aussi, va se transformer. Il va se transformer pour devenir piolet. Peut-être qu'on en parle après. Je ne sais pas, est-ce que tu avais une question prévue sur les piolets ? Voilà, ben, je te parlerai des piolets après. Mais par contre, très vite, on va évoquer, notamment pendant l'âge d'or de l'alpinisme, l'utilisation de la corde. Puisque les cordes à l'époque sont en chanvre. Donc en chanvre, ça veut dire qu'elles se mouillent, qu'elles deviennent très lourdes et puis qu'elles sont cassantes. C'est ce qui va arriver lors de l'ascension du Cervin, la première ascension du Cervin, le 14 juillet 1865, avec entre autres Michel Croix et Edouard Wimper. Et ben, cette corde en chanvre qui va casser va entraîner la chute de Michel Croix et de trois Anglais qui vont décéder lors de cette première ascension du Cervin. Donc à partir de là, et avec les nouveaux matériaux, on va utiliser des cordes synthétiques qui seront beaucoup plus solides que le chanvre, par exemple. Et c'est la même chose pour l'évolution des crampons. Alors les crampons, au départ, hein, c'était quelques pointes. On utilisait même des chaussures plutôt cloutées. Donc on allait mettre des morceaux de fer, des ailes de mouche, ce qu'on appelle des tricounis aussi, sous la chaussure directement, sous la semelle. Et puis, petit à petit, on va inventer vraiment le système de crampons tel qu'on connaît aujourd'hui. Ça va beaucoup évoluer dans les années 20-30. Et ça va permettre à certains alpinistes de réaliser des exploits. Donc voilà, je disais que les crampons, l'évolution du crampon ont permis de mieux escalader les Alpes. Les crampons vont remplacer la taille des marches. À l'époque, on allait tailler les marches aux clients pour qu'ils accèdent plus facilement à la montagne. Là, avec les crampons, on n'a plus besoin de tailler des marches parce que c'était quand même long, compliqué. Alors, les Français étaient un petit peu retard sur la technique du crampon parce qu'ils ne voulaient pas utiliser les crampons qui venaient d'ailleurs. En 1908, par exemple, c'est le crampon à 10 pointes qui est inventé par un Britannique. Et ça va vraiment développer la technique du cramponnage, ces 10 pointes, ce qu'on appelle la technique française. Et puis un petit peu plus tard, en 1929, c'est Laurent Grivel qui invente le crampon à 12 pointes. Il y a deux pointes à l'avant, et ça permet d'éviter de se tordre trop la cheville, de se casser la cheville. Enfin, pas de se la casser, mais les alpinistes, voilà, en fonction de comment ils avançaient, ils évoluaient sur la paroi, ils avaient parfois, à cause de ces crampons, les pieds tout tordus. Donc, grâce à ces deux pointes qu'on va rajouter à l'avant, à ces crampons à 12 pointes, on va pouvoir évoluer sur des pentes de plus de 50 degrés. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est justement l'évolution du crampon qui va améliorer la technique et les performances des alpinistes. Mais voilà, à Chamonix, ça met un petit peu de temps avant d'arriver, puisqu'il y avait notamment Armand Charlet, qui était l'un des meilleurs et qui apprenait l'escalade et l'alpinisme et qui a appris à beaucoup d'alpinistes célèbres par la suite. Et ben lui ne voulait pas entendre parler du crampon à 12 pointes et voulait toujours garder le crampon à 10 pointes. Donc voilà, pour répondre à cette question, ça dépend de quel matériel d'alpinisme on parle et ça dépend des périodes et de l'utilisation et de l'évolution.
À quoi ressemblaient les premiers piolets ?
Alors, les premiers piolets, en fait, on parle plutôt de... Comment dire ? On avait le bâton de montagne dont j'ai parlé tout à l'heure, le bâton de Balma. Et puis, ils utilisaient également des petites haches pour tailler notamment des marches dans la glace. Et finalement, le piolet, ça va être un mélange des deux. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un bâton d'un côté et une petite hache, une petite pioche de l'autre, on va combiner les deux. Le piolet, c'est vraiment l'instrument par excellence de l'alpiniste. On ne peut pas faire d'alpinisme sans piolet. On l'utilise beaucoup dans les Alpes et il a vraisemblablement été inventé, été imaginé à Chamonix. L'un des premiers fabricants, c'est Adolphe Simon, vers 1875. Et d'ailleurs, l'usine Simon existe toujours aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette combinaison du bâton de montagne et de la hache. D'ailleurs, on va garder le pic du bâton pour pouvoir sonder la neige. Et c'est à partir des années 1850 que les alpinistes sont équipés. D'ailleurs, il y a une petite phrase justement qui parle du matériel pour les guides et qui dit « Tous les guides devront être pourvus à leurs frais et à la diligence du guide-chef des outils nécessaires, c'est-à-dire des cordes, fer et tout autre outil qui pourrait être nécessaire pour la sûreté des voyageurs. » Il y avait aussi une question de sécurité là-dedans. Donc, ils devront fournir gratuitement les pics dont ils auraient besoin pour marcher sur les glaciers. Tu vois, ça, c'était vraiment avant le piolet, où on parle de cordes, de fer et de pics.
Et pour finir, pourquoi la Compagnie des Guides a été créée ?
La naissance de la Compagnie des Guides. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu tout ça, sinon je vous garde très longtemps. On a fêté le bicentenaire de la création de la Compagnie des Guides en 2021 avec une exposition à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine. Alors, la Compagnie des Guides, elle a été créée pour plusieurs raisons. Quand l'alpinisme a débuté, de nombreuses personnes souhaitaient faire l'ascension, de plus en plus en tout cas, et il a fallu organiser tout cela. Alors, grimper sur une montagne, aller accompagner un client, un touriste, on se fait de l'argent. Et au départ, c'est un petit peu tout le monde et n'importe qui, entre guillemets, qui accompagnait les personnes en montagne. Donc, il a fallu organiser un petit peu tout ça. Et puis, c'est aussi qu'il y a eu un accident. Entre 1786 et 1820, il n'y a que 11 caravanes qui sont arrivées au sommet du Mont Blanc. Et en 1820, le docteur Hamel, qui était employé du tsar de Russie, part pour faire une expérience scientifique au Mont Blanc. Il part avec plusieurs guides, avec Selig aussi, un opticien anglais. Et alors qu'ils sont en pleine ascension, la météo change très très vite, le temps devient exécrable. Et là, les guides se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop dangereux, le temps n'est pas bon. Est-ce qu'on redescend à Chamonix ou est-ce qu'on continue? Et c'est sans compter sur la volonté du docteur Hamel, qui a payé pour atteindre le sommet, qui traite les guides de lâches et qui leur dit « Je ne veux pas renoncer, je ne veux pas gâcher le fruit de mon travail. » Alors là, les guides, ils ne savent pas quoi faire. Effectivement, c'est le docteur Hamel qui les a payés, mais en même temps, ils savent très bien que s'ils continuent, c'est beaucoup trop dangereux. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que seul Selig, l'opticien anglais, va descendre à Chamonix et les guides vont continuer puisqu'ils ont été payés par le docteur Hamel. Et malheureusement, comme les guides l'avaient prévu, une énorme avalanche va emporter 5 guides, dont 3 qui vont mourir lors de ce premier drame, ce premier accident au Mont Blanc. Alors, entre des besoins d'organisation, entre cet accident pour la sécurité, on décide de créer en 1820 la première compagnie des guides au monde à Chamonix.
Merci beaucoup, Aline da Costa.
Après cette interview passionnante, on vous propose une petite pause musicale accompagnée de Bob Marley.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil.
Nous venons d'écouter War de Bob Marley et Lou a maintenant décidé de nous parler des mystères des aurores boréales.
Lumière du Nord, le mystère envoûtant des aurores boréales. Les aurores boréales, également connues sous le nom de Lumière du Nord, sont des phénomènes naturels spectaculaires qui illuminent le ciel nocturne des régions polaires, avec des vagues de lumière vibrantes et colorées. Ces manifestations célestes ont captivé l'humanité depuis des millénaires, inspirant mythes, légendes et une fascination continue pour les mystères du cosmos. Origine scientifique des aurores boréales. Les aurores boréales résultent de l'interaction entre le vent solaire, un flux de particules chargées éjectées par le soleil, et la magnétosphère terrestre. Lorsque ces particules chargées principalement des électrons et des protons atteignent la Terre, elles sont déviées vers les pôles magnétiques où elles pénètrent l'atmosphère terrestre. En entrant en collision avec les molécules de gaz dans la haute atmosphère, ces particules libèrent de l'énergie sous forme de lumière. L'oxygène à des altitudes de 100 à 300 km émet des teintes vertes et rouges, tandis que l'azote produit des nuances de bleu et de violet. La danse de ces couleurs crée les spectaculaires cortèges lumineux que nous appelons aurores boréales. Observation des aurores boréales. Les aurores boréales sont principalement visibles dans les régions proches des cercles polaires, notamment en Norvège, en Suède, en Finlande, en Islande, au Canada et en Alaska. Les périodes les plus propices pour leur observation se situent entre septembre et mars, lorsque les nuits sont les plus longues et les plus sombres. Les conditions météorologiques claires et un faible niveau de pollution lumineuse sont également essentielles pour une expérience d'observation optimale. Symbolisme et légende. À travers l'histoire, les aurores boréales ont inspiré d'innombrables mythes et légendes. Les peuples autochtones de l'Arctique, comme les Samis en Scandinavie et les Inuits en Amérique du Nord, ont développé des récits riches et variés pour expliquer ce phénomène. En Finlande, les aurores boréales sont appelées reventulet ou feu du renard. Et la légende raconte qu'elles sont créées par un renard arctique qui court à travers la neige, faisant jaillir des étincelles dans le ciel avec sa queue. En Alaska, certaines tribus inuites croient que les aurores sont les esprits des animaux qu'ils chassent, dansant dans l'au-delà. Impact culturel et artistique. Les aurores boréales continuent d'inspirer les artistes, les écrivains et les cinéastes. De nombreux photographes voient vers les régions polaires pour capturer la beauté éphémère de ces lumières dansantes. En littérature, elles symbolisent souvent des thèmes de mystère, de beauté et de connexion avec l'univers. Dans les films et séries, les aurores boréales ajoutent une dimension magique et mystérieuse, souvent utilisée pour évoquer des lieux lointains et extraordinaires. Conclusion. Les aurores boréales demeure un rappel éblouissant de la puissance et de la beauté de la nature. Ce spectacle lumineux, né de l'interaction entre nos planètes et le cosmos, nous invite à lever les yeux et à contempler les merveilles du monde qui nous entoure. Qu'elles soient vues comme des manifestations spirituelles ou simplement appréciées pour leur splendeur visuelle, les aurores boréales continuent de fasciner et d'enchanter tous ceux qui ont la chance de les observer. J'étais ravie de vous parler des aurores boréales. Peut-être faites-vous partie des chanceux qui en ont vu dans le ciel de Chamonix. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la musique « Démon » de Angèle et Damso.
Jusqu'ici tout va bien, enfin ça allait. Confiant t'as peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée.
Jour après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et j'apprendrai toutes les vertus. Quand j'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Quand maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom. Si la magie au père, tout c'est ton rang.
J'aime pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nictal, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus. Faux rappeur, non, pour moins de buts que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'ferai un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game, j'me maîtrise les quatre éléments. Je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer les
démons. Comme maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom. Si la magie au père, tout c'est ton rang. Comment faire pour tuer mes démons? Tuer mes démons. Comment faire pour tuer mes
C'était Démon de Angèle et Damso. Je vais maintenant passer la parole à Louis qui a décidé de parler de la discipline du plongeon de la mort.
Alors, qu'est-ce que c'est la discipline du plongeon de la mort? Le plongeon de la mort, ou DOT en norvégien, est l'une des disciplines sportives amateurs qui a gagné popularité ces dernières années. Le concept de ce sport est assez simple, mais nécessite une grande dose de courage et de maîtrise de soi. Il consiste à s'élancer d'un plongeoir de 10 mètres et à faire croire aux spectateurs, au cours du saut, que l'on va atterrir en plat, comme pour un saut raté. Cette pratique est née à la piscine du quartier, à Oslo, en Norvège, dans les années 1960-1970. Depuis 2008, une Coupe du monde de plongeon de la mort est organisée chaque été à Frogenbardet, avec des participants variés. En 2023, le record du monde et du plongeon de la mort est de 40 mètres de hauteur en Norvège, réalisé par Kestenstorm. Ce type de saut consiste à laisser tomber face à l'eau de très haut avant de se recroqueviller rapidement juste avant l'impact. Le plongeon de la mort est un sport amateur qui demande beaucoup de courage et de maîtrise de soi. Il est à la fois excitant et terrifiant, et c'est ce qui fait son charme. C'est un spectacle à couper le souffle pour les spectateurs et une expérience inoubliable pour les plongeurs. existe-t-il des compétitions des professionnels dans ce domaine du plongeon de la mort ? Alors oui, il existe des compétitions professionnelles dans ce domaine. Depuis 2008, une Coupe du monde de plongeon de la mort est organisée chaque été à Frogenbardet, en Norvège. Cet événement attire de plus en plus de public et de participants dans une ambiance festive. Ces compétitions attirent des participants variés et sont spectacles à couper le souffle pour les spectateurs. Les athlètes démontrent leur courage et leur maîtrise de soi en exécutant des sauts audacieux et spectaculaires. Il est important de noter que le plongeon de la mort est un sport amateur, ce qui signifie qu'il y ait des compétitions organisées. Elles ne sont pas reconnues par les organisations sportives internationales officielles comme les Jeux Olympiques. Cependant, la popularité croissante de ce sport pourrait éventuellement conduire à une reconnaissance plus officielle à l'avenir. Quelles sont les règles de sécurité pour le plongeon ? Le plongeon de la mort est un sport qui nécessite une grande maîtrise de soi et une bonne connaissance des règles de sécurité. Voici quelques règles générales pour pratiquer le plongeon de la mort en toute sécurité. La connaissance des installations, les dimensions. Un maître des installations du plongeon doit être respecté. Par exemple, les tremplins doivent avoir au moins 4,80 m de longueur et 50 cm de largeur. Préparation physique et mentale. Il est essentiel d'avoir des conditions physiques et mentales avant de pratiquer ce plongeon. Une bonne préparation peut aider à prévenir les blessures et à améliorer les performances. Ne jamais plonger seul. Il est recommandé de ne jamais plonger seul et de se tenir à moins de 2 mètres de son binôme pour pouvoir l'aider en cas de problème. Respecter les règles de plongée. Il est important de respecter les règles de plongée, comme éviter les profils en yo-yo et veiller à ne jamais retenir sa respiration pendant la remontée. Formation. Il est recommandé de suivre des cours de plongée et de réanimation de base et des premiers secours avec une administration d'oxygène, ainsi que ces cours de remise à niveau dispensés par les instructeurs qualifiés. Il est important de noter que ces règles peuvent varier en fonction des spécificités de chaque compétition et des réglementations locales. Il est donc essentiel de se renseigner auprès des organisateurs avant de participer à une compétition de plongeon de la mort. La sécurité doit toujours être la priorité numéro une. Quelles sont les règles spécifiques lors d'une compétition de plongeon de la mort ? Lors de la compétition, les règles spécifiques sont les suivantes. Le type de plongeon. Il existe deux types de plongeons de la mort. Le classique, les athlètes s'élancent en mettant les bras et les jambes de manière à former un grand X avec leur corps jusqu'à atteindre l'eau et se recroqueviller en crevette. Freestyle. Les athlètes exécutent différentes figures acrobatiques dans l'air avant d'atteindre l'eau. Évaluation. Les points sont attribués selon la vitesse de la hauteur, la puissance, la distance, le style ou encore la pulvérisation de l'impact. La sécurité. Juste avant d'atteindre l'eau, les participants se recroquevillent pour atténuer l'effet du plat et éviter de se blesser. Esprit de la compétition. Le but de ce plongeon est de faire le plus de bruit, d'arroser le plus de monde et de réaliser au passage la plus belle figure. Entraînez-vous avant de reproduire ce saut à la piscine de Chamonix et tout de suite, Artema. Trying to be romantic, I hit it from the back. Just so you don't get attached.
Friday.
C'était I Like the Way You Kiss Me de Artemas. Je vais donner la parole à Gaspard qui va nous parler du sport.
17-38, c'est le score d'une défaite inquiétante des Français face aux Irlandais. Pendant le match d'ouverture du tournoi des Six Nations, l'équipe de France a subi la plus lourde défaite de l'ère Fabien Galthié, leur entraîneur.
Mais quelle est donc l'origine de cette défaite ?
Pour commencer, beaucoup de joueurs manquent à l'appel. Antoine Dupont, leur capitaine, absent car il se prépare pour les Jeux Olympiques. Gabin Villière, il est forfait à cause de deux fractures. Arthur Vincent, gravement blessé au genou. Sekou Makalou, Paul Willems et bien d'autres joueurs.
Mais alors, sans ces meneurs, l'équipe de France n'arrive pas à jouer ?
Bah, c'est plus compliqué que ça. Cette équipe semblait se découvrir. Pourtant, elle était composée des joueurs qui avaient un vécu important ensemble. D'après l'ancien troisième ligne du 15 de France, le manque d'envie, le manque d'initiative et l'absence de volonté de jouer étaient frappantes. Les joueurs n'ont pas réussi à mettre en place leur plan de jeu. Les Irlandais, quant à eux, ont remarquablement bien joué, avec des touches maîtrisées, un jeu fluide et de très belles actions.
Les Français ont-ils fait beaucoup de fautes ?
On peut parler des deux cartons de Paul Willems, le deuxième ligne français. Le joueur est suspendu 4 semaines pour son carton rouge face aux Irlandais. Il s'est pris un premier carton jaune après 9 petites minutes de jeu car il a réalisé un mauvais plaquage qui peut être dangereux pour les joueurs adverses. Il revient après 10 minutes sur le banc. Malheureusement, de retour sur le terrain, il effectue un autre plaquage non maîtrisé qui le fera définitivement sortir du terrain.
A-t-il fait exprès de le plaquer violemment ?
La commission a reconnu que si les deux actions étaient imprudentes, il n'y avait pas de preuves suggérant que le joueur avait agi de manière malveillante ou intentionnel dans l'un ou l'autre des cas. La commission a également souligné que le joueur s'était admirablement comporté au cours de la procédure et qu'il avait fait preuve de remords pour ses actes. Le Montpellierin sera requalifié à partir du 2 mars et pour réduire cette sanction d'une semaine à condition de suivre le programme de suivi du World Rugby. Si l'on met de côté les deux cartons de Paul Willems, le 15 de France avait pourtant fait preuve de discipline lors de cette rencontre avec seulement 8 pénalités contre 12 pour les Irlandais. Pour résumer, l'équipe de France était timide face aux Irlandais et elle semblait revenir de loin.
Merci pour cette description et nous vous proposons cette interruption musicale.
Enfant des villes, ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu.
On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, oh, pour oublier, pour oublier, oui, pour oublier, pour oublier.
Écoutez Pour oublier de Kenji Girac. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que notre émission vous a plu. Nous allons laisser l'antenne à Nils, Oscar, Antoine et Arto qui vous ont présenté une émission sur l'énergie et ses conversions dans la vallée. Maintenant, nous allons écouter Loca Loca et bonne journée sur Globule.
Hola, tu sabes que te quiero enamorar. Y esta noche vamos a darle rumba. Que nunca pare, que nos gusta bailar, nos gusta bailar. Mami, yo sé que tú me quieres, a mí, dime qué ritmo tú prefieres. Baby, la noche está pa' los placeres, así. Mami, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me quieres.
Hasta la vida loca, 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 loca.
Toca, toca.
Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca.
Tú sabes que me gustas, vamos a jugar. Trae a tus amigas que podemos janguear. Nena, no pare que hoy vamos a bailar. Hoy vamos a bailar. Mami, yo sé que tú me quieres. A mí, dime qué ritmo tú prefieres. Baby, la noche está pa' los placeres. Así, mami, yo sé que tú me quieres. Yo sé que tú me quieres.
Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca.
Toca, toca.
Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida, la vida. Te canta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida, la vida. Te canta la música, te toca, toca, toca.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my not to do.